Bonjour, ici Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun. Nous accueillons aujourd'hui André Huppert-Pommeret qui va nous causer de la coopérative du Dunois. Bonjour André Huppert.
Bonjour Henri.
André Huppert est une vieille connaissance, comme vous le voyez, comme vous l'entendez. Et il est lui-même, d'abord, il va se présenter en deux mots, puisqu'il est, il a eu une formation d'ingénieur dans le domaine de l'agriculture. Alors André Huppert, raconte-nous un peu ton cheminement professionnel.
Merci Henri. Alors, je suis d'origine rurale. J'ai suivi des études en général, puis je me suis tourné vers l'agriculture et dans une école d'agriculture qui doit beaucoup à Châteaudun et à la coopérative du Dunois, puisque c'est la même école que celle de l'abbé Fezard dont nous parlerons tout à l'heure. Donc, j'ai ensuite passé 5 ans à Toulouse, à l'école d'agriculture de Purpan. Et j'en suis, à l'issue de mes études, j'ai donc fait mon service militaire, je me suis marié et nous sommes arrivés à Châteaudun en 1971. Je suis rentré à la coopérative du Dunois en 1971, coopérative qui était en plein développement. Alors on m'a demandé de vous faire un historique de la coopérative agricole du Dunois, à laquelle je suis très attaché, ayant consacré toute ma carrière professionnelle à elle et exclusivement à elle. Donc la coopérative du Dunois a été est née sous une autre forme, puisqu'on va voir que la structure juridique de la coopérative a évolué, s'est étoffée. Et
Et à quelle époque est-elle née et ça correspondait à quel besoin à ce moment-là?
bien sûr. Donc elle est née en 1906. En 1906, l'agriculture de la Beauce pouilleuse était pauvre. Autour de Châteaudun, il y avait des bergers et des moutons. Les parcelles étaient petites, entourées de haies, et l'eau stagnait beaucoup dans les prés. Donc à cette époque-là, les paysans, ce qui n'a rien de péjoratif, vivotaient. Et le clergé local s'est rendu compte très tôt, a pris conscience du problème qu'il y avait et a voulu prendre ça à cœur avec les paroissiens de deux communes autour de Châteaudun, principalement au départ, la commune de la Chapelle du Noyer et la commune de Douy. Et c'est donc le curé de la chapelle du Noyer, l'abbé Janvier, qui en 1906 a réuni quelques agriculteurs de sa paroisse. Et c'est ensemble qu'ils ont décidé de se regrouper pour acheter ensemble les produits nécessaires à leur exploitation pour en améliorer les rendements. Puisque auparavant, il n'y avait qu'une seule filière commerciale, c'était d'acheter dans le commerce les engrais qui venaient du Maroc ou du Chili. Et donc ces agriculteurs se sont regroupés pour acheter un wagon à la fois. Et ils ont pu comme ça faire venir du Chili ou faire venir du Maroc les engrais nécessaires à la transformation de leurs herbages en terre de céréales.
Et est-ce qu'à cette époque, les engrais étaient déjà un peu avec les défauts qu'on leur connaît maintenant, ou est-ce que c'était des engrais plus naturels?
Alors ces engrais n'étaient pas du tout transformés. C'était des minerais. C'était des minerais qui étaient exploités comme le charbon dans le nord de la France. Et donc c'était ces minerais qui étaient chargés sur les navires, soit au départ du Maroc, soit au départ du Chili. Et avec ces engrais, il y avait aussi le problème des semences, puisque les agriculteurs conserver une partie de leur récolte de l'année pour l'année suivante, réensemencer. Et il fallait pouvoir améliorer les rendements de ces cultures en échangeant, en allant chercher plus loin de nouvelles semences. Et donc, ce sont ces achats groupés qui ont pu se faire sous l'égide d'une structure juridique qu'on appelle un syndicat, à l'époque qu'on appelait un syndicat. Et ce syndicat a pris le nom du syndicat agricole du Dunois. Et ce syndicat a d'abord vécu la guerre, puisque en 1913, l'abbé Janvier est décédé. Il a été remplacé à ce moment-là par l'abbé Feuzard, qui avait fait, comme moi, l'école de Genêt. Et donc, c'est l'abbé Feuzard qui va accompagner ses agriculteurs pendant la guerre, enfin plutôt ses agricultrices, pour développer cet esprit d'entraide, cet esprit de soutien, non seulement dans ses produits agricoles achetés en commun, mais aussi dans des soutiens financiers, en faisant caisse commune. Et ils ont constitué comme ça des petites caisses au niveau local pour l'un qui avait de l'épargne apporter cet argent, à confier cet argent à la communauté, et la communauté confier cet argent à ceux qui en avaient besoin.
Ce qui est formidable, c'est que tu dis que donc l'abbé Feuzard avait fait ton école de Toulouse pendant 5 ans. Donc déjà, il apportait une technicité en plus de son rôle de pasteur spirituel.
Tout à fait, tout à fait. Et l'abbé Feuzard, j'ai eu la chance, entre guillemets, de l'apercevoir, mais j'ai jamais travaillé avec lui, puisque quand je suis arrivé en 1971, il avait arrêté ses activités depuis 2 ans, mais il habitait la rue Péan que vous avez tous sûrement bien connu, agriculteur de la région, puisque c'est d'abord là que s'est développé petit à petit ce syndicat, cette caisse rurale de crédit qui est devenue le Crédit Mutuel, et puis les caisses d'allocation familiale, les caisses de sécurité sociale, Et puis, il y a eu l'école aussi. Il y a eu l'école, il y a eu l'enseignement par correspondance.
L'école d'agriculture, alors ?
L'école d'agriculture de Nermont.
Oui.
Qui est née et qui est toujours à Châteaudun.
Eh bien, on va se raconter tout ça après un petit intermède musical. C'est formidable, ton truc.
Non, c'est
formidable.
Non, c'est bon. Je sais plus quoi je vais parler. Thank you.
reprenons maintenant notre émission avec André Hubert Pommeret qui nous parle de la coopérative du Dunois et donc avec un personnage très important, l'abbé Faisard, qui pendant très longtemps a présidé à ses destinées. Alors nous en arrivons donc à l'époque d'après la vers 1929 où là André Hubert va nous dire qu'il s'est passé une crise sérieuse sur le plan de l'agriculture.
1929, 1932, 1936, la grande crise, la surproduction, la désorganisation des marchés internationaux suite à la crise aux États-Unis, tout cela a apporté encore dans nos campagnes de la misère. Et les agriculteurs autour de Châteaudun ont entrepris d'étendre leur activité non plus seulement à des achats groupés de produits d'approvisionnement, mais à accepter de faire vendre leur récolte à des gens qui allaient les représenter. Et pour constituer cette structure, ils ont décidé de créer la coopérative agricole du syndicat du Dunois. Et cette coopérative va leur apporter d'abord la sécurité. La sécurité de vendre leurs céréales à des prix planchers. Cette sécurité va leur être apportée en deux temps. Tout d'abord, à leur niveau à eux, au niveau... En permettant le stockage semi-public des récoltes au fur et à mesure de leur arrivée, pour éviter que la nouvelle récolte vienne encore détériorer encore plus le marché de la précédente qui avait été encore invendue. Et donc, c'est cette structure coopérative de producteurs, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait que l'agriculteur est à la fois un client de la coopérative en apportant un fourni. Enfin, la coopérative.
Oui, c'est une sécurité donc pour lui et pour. Pour tout ce qui c'est un gros progrès par rapport à ce qui existait avant. Et même en revenant avant, comment se fait-il qu'on soit passé au début du XXe siècle? C'était des boutons qu'on ne voit plus maintenant. Et comment ça s'est passé l'évolution entre l'élevage et la culture du blé?
Oui, alors on reviendra tout à l'heure sur la coopérative, excusez-moi. Donc en fait, ça s'est passé par le remembrement. Le remembrement, c'est encore des agriculteurs qui ont accepté d'échanger leurs terres, puisque les parcelles étaient de plus en plus petites au fur et à mesure qu'il y avait des partages de terres. Chaque famille voulait que chaque enfant ait une partie de la parcelle de tel endroit parce qu'elle était meilleure que l'autre. Et donc, il a fallu faire l'opération inverse, c'est-à-dire regrouper ces parcelles pour pouvoir mécaniser la récolte. Et donc, en plus du remembrement, ensuite a été entreprise, surtout à partir des années 1950, le drainage. Puisque tout à l'heure, nous parlions de bosses pouilleuses, des terres argileuses, lourdes. Donc, il fallait que l'humidité puisse passer par en dessous. Et donc, on a implanté des tas de canalisations dans le sol pour pouvoir drainer, faire partir cette humidité rapidement. Bon, revenons en 1929, la coopérative qui, d'une part, reçoit les céréales des agriculteurs et va les vendre pour le compte des agriculteurs. La coopérative, donc, va pouvoir payer comptant une partie de la récolte de ses agriculteurs. Mais on se rend bien compte que cette organisation est imparfaite. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait une garantie au final pour l'agriculteur de son prix définitif. Et donc va être créé en 1936, si je me souviens bien, l'Office national du blé, l'ONIB, qui deviendra l'ONIC. Et l'ONIC, j'ai beaucoup pratiqué étant dans les services financiers de la coopérative, donc avait un attrait très important pour les agriculteurs, c'est de leur garantir le paiement. Un négociant qui achète des céréales peut très bien se déclarer, être en difficulté financière et se déclarer en faillite et alors ne pas pouvoir payer l'agriculteur. L'ONIC apporte quoi ? Elle apporte la garantie de paiement de l'État français. Et donc, ces financements apportent encore toute la sécurité aux agriculteurs de leur paiement grâce à cette filière par une coopérative agricole. Donc la coopérative s'est développée dans les années 30, dans les années 40. Bien sûr, il y a eu l'interruption. L'agriculture n'arrête pas pendant la guerre. Il y a eu la guerre. Mais juste avant la guerre, la coopérative du Dunois, qui s'était étendue sur d'autres paroisses, sur d'autres communes, sur d'autres arrondissements, dans tout le département d'Eure-et-Loire, donc a entrepris de construire, grâce à l'aide de l'ONIC, des capacités de stockage, des capacités de rétention des céréales pour qu'elles n'arrivent pas sur le marché toutes en même temps. Et donc réguler ce marché, d'une part pour assurer aux boulangers d'avoir toujours le grain nécessaire pour nourrir les populations, mais aussi assurer à l'agriculteur d'avoir le règlement de ses céréales, quelles que soient les quantités qu'il apporte à sa coopérative. Et donc, une coopérative, elle garantit aussi une chose aux agriculteurs qui est très importante, c'est que tout le monde est sur le même plan. Tout le monde est payé le même prix. Les blés, le prix d'acompte au moment de la récolte, puis les compléments de prix au fur et à mesure que la coopérative peut vendre sur le marché les céréales, les compléments de prix sont tous identiques pour le coopérateur. Et ça, c'est une question de justice sociale à laquelle nos fondateurs, les abbés Janvier, les abbés Feuzard, étaient très attachés. Et c'était une constance dans le souci du conseil d'administration de la coopérative, qui était uniquement constitué donc d'agriculteurs, donc de maintenir, de respecter cette égalité dans les conditions dans les prix.
Eh bien, nous allons maintenant faire une seconde pause musicale, toujours avec Corelli. Il s'agit de concerto de Noël, puisque nous sommes à cette époque.
Bah, tu vas pouvoir couper ou quoi, là, parce que ça va pas... Thank you.
reprenons donc l'émission avec André Hubert, et qui va nous parler maintenant des personnalités qu'il a connues lors de sa longue carrière professionnelle à la coopérative du Dunois.
Merci. Oui, en 1971, lorsque j'ai intégré la coopérative agricole du Dunois, il y avait à sa tête un conseil d'administration, bien sûr, présidé par Jean Perdereau. Mais il y avait aussi ce que les agriculteurs appellent les administratifs. Il y avait la structure exécutive de leur organisme coopératif, organisme qui leur appartient, puisqu'ils ont des parts sociales, ils sont détenteurs du capital social qui a permis le financement des silos, des moyens informatiques et autres qui font aujourd'hui la coopérative du Dunois. Donc les trois hommes que j'ai côtoyés à l'époque au niveau de la direction étaient formés la force vive et assurer un juste équilibre entre les pouvoirs de chacun.
Eux-mêmes étaient originaires de la région de Châteaudun, du milieu agricole.
Tout à fait. Alors, c'est très important, cela aussi. Tous les trois étaient originaires de la région. Jean-Martin était de Chartres, et Jean Ballot et Guy Pichon étaient également originaires de Réloir. Guy Pichon, directeur comptable financier, homme extraordinaire, d'une grande rigueur. Rigueur qui a d'ailleurs été très appréciée au conseil municipal de la ville de Châteaudun, puisque c'est lui qui a permis à l'époque, dans les années 60-70, de remettre en place toute la comptabilité de la commune. Donc Guy Pichon, directeur comptable, qui faisait le poids face à deux trublions. Jean Ballot, tout le monde le connaît. Jean Ballot, c'est le directeur céréal, c'est celui qui faisait la pluie et le beau temps à la bourse des céréales à Paris toutes les semaines. Jean Ballot fixait les prix d'acompte des céréales que les agriculteurs apportaient et était surtout chargé de vendre ces céréales dans le monde entier. Céréales qui partaient soit en France vers les grands moulins pour la production humaine ou la production animale, mais aussi partaient à Rouen ou à Viry-Châtillon sur des péniches ou des bateaux en Afrique ou dans des pays plus lointains. Donc Jean Ballot, et puis le directeur général, celui qui avait permis de rassembler toutes les différentes structures juridiques qui constituaient la coopérative du Dunois en 1971, à savoir le syndicat qui s'était transformé en coopérative d'appro, une coopérative d'apport de petites graines, et puis donc la coopérative de céréales, constitué en 1932. Et donc, ces trois mousquetaires formaient une équipe extraordinaire que j'ai pu apprécier. Équipe qui n'était pas repliée non plus sur elle-même, puisqu'elle a permis à l'école de Nermont de continuer à vivre. L'école a subi à cette époque diverses crises, en particulier des crises financières, et c'est le Crédit Mutuel et la coopérative agricole du Dunois qui, par deux fois, sont intervenus pour redresser la situation et permettre à notre école de Nermont de se développer et d'être ce qu'elle est aujourd'hui pour tous les jeunes de la région.
Merci beaucoup, André Hubert, pour cette rétrospective passionnante C'est historique de la coopérative du Dunois, à laquelle nous souhaitons également un bon avenir.
Thank you.